Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église et de ce numéro où nous allons aborder un sujet qui pourrait être celui du bac de philosophie, la finalité politique de la personne humaine. C'est celui que propose une journée d'études transdisciplinaire qui a lieu à l'Institut catholique de Toulouse le jeudi 19 mars. Elle est organisée par l'unité de recherche culture, éthique, religion et société sous la direction d'Aude Surami. Aude Surami est l'invitée de cette émission. Bienvenue à vous aussi, Aude Surami, et merci d'avoir accepté de venir présenter cette journée d'études aux auditeurs de Vivante Église.
Merci à vous.
Je précise que vous êtes professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse, et c'est à l'enseignant que je vais m'adresser d'abord, parce qu'il me semble essentiel de définir au préalable les trois termes du titre que vous avez retenu pour cette journée, qui, je le précise, est ouverte à tous, gratuitement, mais sur inscription tout de même. Est-ce que vous pouvez définir les termes finalité, politique et personne humaine, puis vous nous expliquerez ensuite ce qui doit les relier entre eux.
La personne humaine, si on commence par là, c'est un être charnel, spirituel tout à la fois, un animal mais qui à la différence des autres animaux n'est pas mû que par ses instincts, mais a la possibilité de poser des actes rationnels et libres. En gros mots philosophiques, on reprendrait la définition de Boès pour dire que la personne est substance individuée de nature rationnelle. Cette substance, ce terme de substance, indique que la personne demeure, quoi qu'il arrive et quoi qu'elle fasse. Et son caractère rationnel dit son contact avec l'altérité, ce contact qui lui permet aussi d'être en contact avec les autres. Indirectement, il sous-entend ou exprime sa nature politique. Alors, c'est à la politique qu'il nous faut maintenant nous pencher si nous travaillons notre dissertation du bac de philo. La politique, on a parfois une idée qui n'est pas toujours très bonne. Nos sociétés individualistes ont tendance à oublier que l'homme est un animal politique. Or, Robinson Crusoe, par exemple, sur son île déserte, ne l'oublie pas lorsqu'il est tout seul et qu'il a tout pour survivre, mais qu'il n'a pas d'autres personnes humaines en face de lui et s'écrie « Donnez-moi quelqu'un, Seigneur, grand Dieu, donnez-moi quelqu'un, un ami ou un ennemi, mais quelqu'un ». On voit aussi que nos sociétés, il y a un mode de célibat qui est choisi, une tranquillité de vie sans enfant. Eh bien ça semble contraire à la nature humaine, en tout cas telle que la voyait Aristote qui nous présentait l'homme comme un animal politique. Un animal capable d'opérer un bien qui ne soit pas exclusivement le sien, mais qui soit partagé par une multitude d'hommes. Pour Aristote, le bien de tous est plus beau, nous dit-il, plus beau et plus divin que le bien d'un seul. Cette caractéristique politique de l'homme a été beaucoup reprise par le pape Jean-Paul II, qui tout au long de son pontificat va citer comme un leitmotiv cette phrase de Gaudium et Spes 24 « L'homme, seule créature que Dieu ait voulu pour elle-même, ne peut se trouver que dans le don sincère de lui-même ». Donc pour Jean-Paul II, pas d'autre solution pour s'épanouir que de se donner à un autre. Et ça nous dit la fine pointe de la nature politique de la personne humaine. La politique n'est pas quelque chose d'accessoire à la personne humaine, c'est vraiment le sommet de son accomplissement, de la réalisation de sa vie. Et cette communauté politique, elle commence à partir de deux, notamment on pourrait penser avec le couple, puis avec la famille. Puis au-delà de la famille, la cité, la patrie, etc. Alors maintenant, il faut que je passe au troisième terme.
Oui, quand intervient la notion de finalité?
J'aurais pu parler de fin politique, mais peut-être que la finalité évoque un moyen d'aller jusqu'à la fin des fins, la fin ultime. Quel intérêt de se pencher sur la finalité politique? L'intérêt de se pencher sur la fin, c'est de connaître l'ordre. Si, par exemple, de ces studios toulousains, nous voulons aller faire une excursion en montagne, si nous ne savons pas où aller et que nous prenons plein nord, nous ne sommes pas encore arrivés au sommet du Mont Chaliers, par exemple, en Ariège. Mais en revanche, Si à 20 mètres du sommet, dans notre excursion, nous ne prenons pas le chemin le plus court, ça aura moins de conséquences. Ça aura moins de conséquences puisqu'on arrivera peut-être d'une autre manière au sommet. Donc on voit que la fin, c'est celle qui nous permet de mettre en ordre notre chemin et notre vie. Il faut une connaissance de la fin, et ce que l'on reproche parfois à nos politiques, c'est d'avoir une connaissance de la navigation, mais de ne pas savoir où aller. Et s'ils arrivent à sortir du port, de tourner sur un même comme un bateau perdu au milieu de l'océan, qui avance au gré du vent, qui essaie de passer les vagues, mais qui va nulle part. Et cette voie est sans issue. Cette voie est sans issue parce que l'homme politique, ou plutôt le politicien, ne sait pas regarder les étoiles pour se diriger. Et quand bien même il le saurait, il faudrait qu'il trouve l'étoile vers laquelle il doit se diriger. C'est un peu ce que dit le général Pierre de Villiers, notamment dans son dernier livre, mais dans beaucoup de ses prises de parole où il le répète. Il insiste sur le manque de stratégie de la politique actuelle. Et si on manque de stratégie, on manque la fin et on manque d'ordre, on est dans le désordre.
Oui, alors c'est en cela, j'imagine, que ce sujet et ce thème est très actuel, puisque, comme vous le disiez, on a parfois l'impression que nos politiques, aujourd'hui, ceux qui nous dirigent, agissent parfois un peu comme des canards sans tête.
Oui.
Exagère peut-être.
Un canard sans tête, ça ne va pas très loin, effectivement. Oui, évidemment, cette journée est là parce qu'il y a une urgence. Si nous voulons rester une communauté politique libre, où les personnes peuvent vivre à la hauteur de leur dignité, il faut que nous sachions où aller, il faut que nous sachions mettre de l'ordre. Parce que la tranquillité de l'ordre, quand les choses sont à leur place, c'est ce que saint Augustin, avec raison, nomme la paix.
On va parler de saint Augustin d'ailleurs au cours de cette émission, puisqu'il apparaît dans le programme de cette journée d'études. Alors, ça a lieu à l'amphithéâtre René de Noroy de 8h30 à 18h. La journée se déroule en deux temps, avec quatre interventions le matin et quatre autres l'après-midi, chacune sur un thème bien précis, développé à chaque fois par un intervenant différent. Ce sont en quelque sorte des mini-conférences d'une quarantaine de minutes, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça.
Donc après l'accueil à 8h30, première intervention à 8h40, avec le père Cyprien Comte, qu'on connaît bien, à Radio Présence. Lui, il enseigne la théologie à l'Institut catholique de Toulouse. Oui. Quel va être l'objet, le sujet de son intervention?
Le sujet de son intervention, c'est la vocation personnelle et la vocation d'Israël dans l'Écriture sainte. La vocation est à prendre au sens, un sens large qui nous appelle. Mais là, évidemment, ce sera un sens, dans son intervention à lui, un sens plus religieux. On peut penser, par exemple, à la vocation d'Abraham, le grand rabbin de Rome, Benedetto Carucci Viterbi, parle de ce laïc leca, de cet appel d'Abraham qui veut dire « vas à toi, puis va-t'en ». Et le rabbin explique que cela, c'est le symbole de la vocation contre l'ambition. L'ambition où on reste enfermé en soi. Non, on rentre en soi pour mieux en sortir. Toute l'histoire de la Bible, depuis la Genèse, toute l'histoire d'Israël est une histoire politique. Et une histoire politique que, entre autres, Joseph Ratzinger a étudiée dans son premier ouvrage qui s'appelle « Frères dans le Christ ». Qui est un ouvrage extrêmement intéressant, où il parle à la fois d'une fermeture de la fraternité sur elle-même et d'une ouverture et cette contradiction un peu qu'il y a dans toute l'histoire d'Israël.
Voilà donc, après cette première intervention du père Cyprien Comte à 8h40, deuxième conférence prévue à 9h20. Et c'est Philippe Soile, qui fut longtemps professeur de philosophie et également à l'Institut catholique de Toulouse, qui va la prononcer. Quel thème va-t-il développer ?
Il va parler de la tranquillité de l'ordre dans la Cité des Hommes, chez Augustin. Ce qui est connu chez Augustin, c'est un ouvrage qui s'appelle La Cité de Dieu. Là, il va parler de la Cité des Hommes, mais évidemment, ça a un rapport avec la Cité de Dieu. Comme on le disait tout à l'heure, la tranquillité de l'ordre, pour Augustin, c'est la paix. L'ordre est une chose importante et éminemment importante pour Augustin. C'est lui qui nous permet de rejoindre notre fin ultime en Dieu. Donc lorsque chaque chose est à sa juste place, vient la paix. Et Augustin est aussi un grand théoricien de la guerre et a travaillé à définir ce qu'est la guerre juste. Et une des caractéristiques de cette guerre, quand elle est juste, c'est de rétablir l'ordre et d'arriver, autant que faire se peut, à la paix. L'ordre est quelque chose de très important chez Augustin, puisque cet ordre, c'est l'ordre de l'amour. Donc mais Augustin a beaucoup de choses à nous dire.
C'est là qu'on va aborder toute la dimension politique dans la pensée de Saint-Augustin, de la pensée de Saint-Augustin. Peut-être d'ailleurs qu'il faudrait plus dire le politique que la politique.
On en discutera.
Vous en discuterez après l'intervention de Philippe Soile. Précisons qu'il y a un temps d'échange de 15 minutes après les deux premières conférences. Et ça, c'est un espace de discussion qui va exister tout au long de cette journée. Donc, c'est une quinzaine de minutes. Et là, On revient sur ce qui a été dit lors des deux conférences précédentes.
Il y aura des échanges entre les enseignants-chercheurs qui seront là. Tu as dit ça, mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que ceci, cela.
Donc, il y aura une sorte de disputation. Bon, c'est un grand mot, mais ça va un peu ressembler
à ça. Mais c'est un peu dans ce sens-là. Des interventions des étudiants et des auditeurs libres qui voudront s'inscrire pourront aussi intervenir.
Pause café à 10h15, hein, quand même, il faut un petit peu parfois se restaurer. Troisième conférence de la matinée à 10h30, donnée par Sylvain Charton. Alors lui est professeur de philosophie également, mais à l'Université catholique de l'Ouest. Et là, on passe de Saint-Augustin à Saint-Thomas d'Aquin.
Oui, avec l'étude de la prudence personnelle et politique chez Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin est un penseur du concret, de la réalité, de l'incarnation. Et pour lui, le bon agir n'est pas l'application d'une règle qu'il soit valable en tout temps, à tout lieu, de manière systématique à chaque acte que nous devons poser. Nous devons prendre en compte dans nos décisions, certes, des principes moraux qui sont parfois universels, comme le fait d'accomplir le bien et d'éviter le mal, ou le fait de respecter que l'homme a besoin d'être aimé et d'aimer jusqu'à la hauteur de sa dignité. Mais toutes les circonstances sont à prendre en compte, l'état dans lequel je me trouve moi, les circonstances extérieures qui vont faire que je dois poser tel ou tel acte. Et ce qui permet cela chez Thomas d'Aquin, c'est la vertu de prudence.
La mère de toutes les vertus d'ailleurs.
La mère de toutes les vertus. Et donc il s'agira de regarder d'une part la prudence personnelle qui est intéressante et qui est nécessaire à la prudence politique. Il n'est déjà pas facile d'accomplir son acte en sachant comment agir, mais on l'accomplit cet acte en commun avec d'autres. Presque tout acte personnel est en fait aussi un acte politique. Donc la difficulté de la prudence politique est extrême. La difficulté politique est extrême.
Oui, parce qu'il faut
quand même... Comment s'en sortir ?
Il faut être dans l'action aussi, dans la politique.
Il faut être dans l'action.
Parce qu'on peut être inhibé par des principes prudentiels, entre guillemets, qui empêcheraient d'agir.
Oui, et c'est la beauté de la pensée de Thomas d'Aquin qui est très, 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 très incarnée. Donc, comment faire, étant donné les circonstances qui ne sont pas parfaites ? Étant donné aujourd'hui aussi la mondialisation, nos actes ont des conséquences parfois sur toute la planète. Donc ça devient très difficile à gérer. Et puis ça devient difficile parce que la politique a besoin d'une concorde qui n'existe pas toujours.
Et la quatrième et dernière conférence de la matinée est prononcée à 11h20 par Philippe Dazébrun, historien, professeur de lettres à l'Institut catholique de Toulouse. Ben voilà encore un intervenant qu'on a eu l'occasion de recevoir à plusieurs reprises à Radio Présence. Philippe Dazébrun va parler de l'engagement politique de François Mauriac, un auteur qu'il connaît très 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 bien et à qui il a consacré une très intéressante biographie.
Oui, très intéressante biographie et un certain nombre d'ouvrages déjà. Monsieur Dazébrun est un grand spécialiste de Mauriac et nous avons la chance qu'il ait accepté de venir en parler. On est toujours dans cette perspective d'une politique qui soit incarnée et qui soit concrète. Cette politique, étant donné que l'homme est un animal politique, elle est l'engagement de chacun. Et elle fut l'engagement de François Mauriac et nous avons besoin... d'exemple. Mauriac est un grand exemple.
Un modèle presque.
Un modèle.
On peut parler de modèle.
En tout cas,
c'est comme ça que ça va être présenté.
Oui, oui, oui.
Hein.
De modèle d'équilibre et d'engagement politique régulier. On peut se souvenir de tout ce qu'il a publié dans les bloc-notes du Figaro. Donc voilà, je crois que ça va être passionnant et c'est vraiment un moment justement où on prend pour modèle une personne montrant que la politique n'est pas désincarnée et qu'elle est possible, chacun à sa mesure.
Alors je ne sais pas qui a choisi le titre de cette conférence, si c'est Philippe Dazébrun lui-même, mais je vais le préciser parce que c'est l'engagement politique de François Mauriac, l'intellectuel serviteur de l'Évangile.
Oui. Et donc, évidemment, on voit bien que cette journée est interdisciplinaire, transdisciplinaire.
Oui, voilà, cette journée d'études transdisciplinaires. Et là, on voit effectivement tout l'aspect transdisciplinaire des différentes conférences et surtout lorsqu'on voit d'où viennent les différents intervenants. Alors, je rappelle le titre de la biographie de Philippe d'Azébrun. Vous avez raison, il a consacré plusieurs livres à François Mauriac, mais cette biographie avait pour titre François Mauriac, l'inguérissable jeunesse. Temps d'échange de nouveau à midi.
Oui.
Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire.
Oui, les temps d'échange sont toujours un peu trop courts, mais on est obligé de les limiter aussi pour pouvoir se restaurer par la
Alors,
suite.
Alors, il y a aussi une messe, je tiens à préciser.
Il y a une, restaurer son âme d'abord et ensuite...
Donc, il y a une messe qui aura lieu à midi et demi.
À midi et demi. Qui
à
sera
l'Institut catholique.
À l'Institut catholique, à la chapelle Sainte-Claire. Et qui sera, je ne sais pas si elle sera présidée par Piotr Mazurkiewicz, qui nous vient de l'université Stéphane Wyszyński de Varsovie. Mais il donnera l'homélie.
Parce qu'il est prêtre lui-même.
Il est prêtre, oui.
Il n'avait pas noté, effectivement.
Oui, il est prêtre et il est directeur de l'Institut des sciences politiques de l'Université Stéphane Wyszyński de Varsovie. Il a aussi travaillé longtemps pour l'Union européenne en y représentant le Saint-Siège.
Et bien voilà pour le programme, les thèmes et les intervenants de cette matinée très bien remplie, ma foi, de la journée d'études transdisciplinaire consacrée à la finalité politique de la personne humaine que vous proposez à l'Institut catholique de Toulouse le jeudi 19 mars à 13h15 et à la pause déjeuner All Self de l'ICT. Nous allons faire nous aussi une pause dans cette émission avant d'aborder les thèmes et les interventions d'après-midi. Pause en musique comme d'habitude, en écoutant le Sanctus du Requiem de Gabriel Fauré, ben vous venez de l'Ariège, je le sais. Voilà de la musique composée par un Ariégeois. C'est une version de l'Orchestre National du Capitole et du chœur Orpheum Donostiara, dirigé par Michel Plasson.
présence.
Vivante Église, Éric Dupri.
Nous revoici pour la seconde partie de ce numéro consacré au thème de la journée d'études transdisciplinaires qui se tient à l'Institut catholique de Toulouse le jeudi 19 mars. Je rappelle qu'elle est organisée par l'unité de recherche culture, éthique, religion et société et elle a pour titre « La finalité politique de la personne humaine ». Je suis toujours en compagnie d'Aude Surami, professeur de philosophie à l'ICT, qui dirige cette journée. Nous avons présenté en première partie d'émission les conférences et les intervenants de la matinée du 19. Maintenant, ce sont les interventions de l'après-midi qui vont nous intéresser. Vous reprenez à 14h30 avec Bernard Calba, professeur de droit civil et canonique à l'Institut catholique de Toulouse. Son sujet est l'humanisme et la finalité politique, mais avec un angle bien particulier tout de même.
Oui, Bernard Calba va intervenir en droit sur le personnalisme dans l'ordre social. Je ne sais pas ce que va dire mon collègue, je ne suis pas professeur de droit, mais ce que ça évoque pour moi du point de vue philosophique, c'est la querelle sur le personnalisme. Une querelle entre ceux qui voudraient montrer que la fin de la personne serait supérieure à la fin de la communauté politique. Et d'autres qui rappellent, non, la fin de la personne n'est pas supérieure à la fin de la communauté politique. Donc il y a un problème entre un personnalisme qui
se rapproche de l'individualisme.
Qui serait en fait un individualisme, oui, et ne considérerait pas suffisamment la nature politique de la personne humaine. Et un personnalisme qui serait un vrai personnalisme et qui considère la nature politique de la personne humaine.
Oui, d'ailleurs, le titre de cette conférence de Bernard Calba, c'est « Humanisme et finalités politiques, les incidences du personnalisme libéral dans l'ordre social ».
Oui, donc on verra si un certain personnalisme, qui est peut-être un individualisme, n'a pas des conséquences délétères dans l'ordre social. Et alors, que faut-il corriger pour essayer de remettre un véritable ordre?
Va intervenir à un moment donné la notion de bien commun dont nous allons parler maintenant, puisque à 15h10, c'est Jean-Rémy Lanavert qui prend le relais. Il enseigne aussi la philosophie, alors lui au séminaire de la communauté Saint-Martin, et il va intervenir sur le thème du sacrifice et du bien commun politique. Quel lien fait-il entre les deux?
Alors pour bien comprendre, il faut comprendre ce qu'on appelle bien commun. Aristote nous dit qu'il y a trois éléments objectifs du bien commun. Il y a des biens qui nous sont communs pour notre survie. Nous avons besoin de nourriture, d'eau, d'hébergement. Ce sont là nos biens communs pour la survie. Mais nous ne désirons pas seulement une survie, mais une vie qui soit bonne, nous dit Aristote. Et donc, il y a une partie du bien commun qui concerne cette vie bonne et ce qu'Aristote nomme la vie selon la vertu. Et il y a un troisième élément du bien commun qu'il ne faut pas oublier, qui est le bien vers quoi toute chose tend. Nous tendons vers un bien et nous voudrions un bien qui soit toujours plus grand, un bien qui dure infiniment, un bien qui ne soit que bien, ce qu'on appelle un bien souverain et qui, pour Aristote, correspond au dieu des philosophes, au premier moteur qu'il démontre. Mais ces éléments-là que nous donne Aristote ne sont pas suffisants pour comprendre en profondeur ce qu'est le bien commun. Et on trouve un complément de cela très intéressant dans la pensée de Jean-Paul II, de Karol Wojtyła plutôt, puisqu'il en parle avant d'être pape. Et pour qu'un bien devienne commun, il faut que, si votre bien d'être journaliste par exemple, pour qu'il devienne notre bien commun, il faut que je vous veuille du bien et que j'aime votre bien comme si c'était mon propre bien, autant que si c'était mon propre bien. Je vous veux du bien à tel point que votre bien devient mon propre bien. Et à ce moment-là, vraiment, on peut parler de bien commun. Et c'est très intéressant parce que ça nous dit que toute communauté politique, pour atteindre à la hauteur de la dignité des personnes humaines, elle doit être fondée sur un amour, tout au moins, de bienveillance, ou qui plus est, sur un amour sponsal. Donc on a des politiques parfois qui ne comprennent pas comment le lien politique se dissout, qui nous parlent de la rupture du lien politique, mais tout simplement c'est parce qu'on ne s'aime pas assez les uns les autres.
On en arrive à ça, on ne s'aime pas assez les uns les autres, et j'attendais effectivement à ce que vous en veniez à cette expression qu'évidemment tout chrétien connaît. Je précise quand même le titre de cette conférence de Jean-Rémy Lanavert, c'est « Est-il compatible avec la dignité de la personne humaine de se sacrifier pour le bien commun ?» Et j'ai parlé tout à l'heure de la notion de sacrifice qui intervenait dans cette conférence. Alors, lui va répondre bien sûr, mais vous, est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Est-ce qu'il est compatible avec la dignité de la personne humaine de se sacrifier pour le bien commun politique ?
Pour cela, il faut bien comprendre que le bien commun n'est pas quelque chose d'abstrait et d'imposable de l'extérieur, que le bien commun, il est le bien de chacun. Donc, si mon bien est le bien commun, je peux me sacrifier pour elle. Ça pose quand même des problèmes que Wojtyła lui-même note. Une espèce de contradiction, c'est lui qui affirme que l'homme ne peut se trouver que dans le don sincère de lui-même, il affirme aussi à un autre moment que la personne humaine est au-dessus de toute forme de don, parce qu'elle est incommunicable. Personne ne peut vivre à ma place, personne ne peut penser à ma place,
ne peut ressentir à ma place,
ne peut vouloir à ma place, ne peut aimer à ma place. Donc, personne ne peut me prendre comme une esclave, je suis un être libre. Donc, il y a toute une contradiction apparente qu'il va falloir étudier et comprendre pour comprendre que qui aura trouvé sa vie la perdra et qui aura perdu sa vie la trouvera. Donc je laisse Jean-Rémy Lanavert entrer plus dans les détails, mais cette question est éminemment importante. On voit les réactions qui ont été provoquées par les propos de notre chef d'état-major des armées, le général Mandon, lorsque devant les maires de France, il nous a dit qu'il fallait que nous soyons prêts à accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est, à accepter
de
perdre ses enfants. Et si l'on n'est pas prêt, on est en danger et en risque. Et je crois que c'est vraiment cette question, en fait, que pose Don Jean-Rémy Lanavert. Est-il compatible avec la dignité de la personne humaine de se sacrifier pour le bien commun politique ? Et j'imagine aussi que c'est la question que se posent tous les jeunes qui, entre autres, pensent à s'engager dans l'armée ou dans la médecine. C'est une question décisive pour notre vie. D'où l'intérêt d'étudier la finalité de la personne humaine.
Est-ce que la notion de souverain bien intervient aussi là-dedans ?
Oui, elle va intervenir effectivement là-dedans. De toute façon, ce souverain bien, il est notre bien commun, puisque nous cherchons tous un bien qui ne soit que bien.
Nouveau temps d'échange à 15h50, donc après ces deux premières conférences qui, je pense, vont beaucoup faire réagir et beaucoup faire débattre et discuter. Une petite pause goûtée à 16h05 et on reprend à 16h20. Et là, c'est vous qui allez intervenir, Aude Surami. Je vais donc vous laisser nous présenter le sujet de votre conférence. Vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour le faire.
Cette intervention sera sur la finalité et l'enracinement en politique. Donc, on a compris que le sujet de la journée, c'était la finalité en politique. Et cette fin, elle est la fin, mais elle est aussi l'origine, le principe, la racine de notre acte, c'est elle qui nous permet d'agir, notre agir personnel et politique, c'est elle qui nous permet d'accomplir un acte en commun avec d'autres, c'est elle qui nous motive à l'action, qui est la cause de notre action, qui est la cause première de notre action. Et donc, il faut vraiment voir que la fin permet la liberté de chacun de nos actes et elle est notre racine. Et là, je me concentrerai sur la racine de notre acte politique. Cette racine, elle vient de la fin, elle vient aussi de ce que nous sommes, de ce que nous ont transmis nos parents, de cette terre où nous sommes nés, de ce temps, de ce lieu, de notre incarnation. Cet acte, il suppose nos racines, le fruit de notre apprentissage de la vie politique que nous avons appris tout d'abord dans notre famille, la première société politique qui est ouverte sur la cité. Une maison n'est pas un bunker clos sur lui-même, elle a des fenêtres et des portes pour s'ouvrir à un au-delà de soi-même. Donc cet enracinement est nécessaire et il est nécessaire que cet enracinement ne devienne pas une identité fermée et close pour pouvoir s'ouvrir à plus grand que soi-même. Ça rejoint encore la finalité. La finalité politique qui est au-delà de nous-mêmes et qui nous permet de ne pas nous renfermer sur nous-mêmes. Ce renfermement, quelle que soit l'échelle de la communauté, il serait totalitaire et on pourrait dire même incestueusement dévastateur.
C'est intéressant ce terme d'enracinement parce que pour certaines personnes, l'enracinement c'est quelque chose justement de fermé, qui ne serait pas ouvert sur le monde. Alors moi, ça m'interpelle parce que c'est aussi le titre d'un livre de la philosophe Simone Veil, hein, Simone Veil avec un W, hein, pas la femme politique. Est-ce qu'il va être question d'elle dans votre intervention ?
Oui, il sera. Je puiserai à l'enracinement de Simone Veil.
Alors, dernière conférence de la journée, prononcée par quelqu'un dont vous avez déjà prononcé le nom, Piotr Mazurkiewicz, professeur en sciences politiques à l'université Stefan Wyszyński de Varsovie. Présentez-nous un peu cet enseignant et le sujet de sa conférence. Et là, on va élargir la dimension de l'Europe.
Oui, Piotr Wyszyński a beaucoup travaillé à Bruxelles, à l'Union européenne, comme représentant du Saint-Siège, pour faire connaître la pensée du Saint-Siège au sein de l'Union européenne. Donc il connaît bien l'Europe, les différentes nations
et les institutions européennes.
Et les institutions européennes. Piotr Mazurkiewicz est aussi, comme je le disais tout à l'heure, à la tête de l'Institut des sciences politiques de l'Université Stefan Wyszyński de Varsovie. Donc il est grand spécialiste de la politique. Donc on est vraiment très heureux, très honoré qu'il soit parmi nous.
Lui, le titre de sa conférence, c'est « Finalité politique de la personne humaine en Europe, hier, aujourd'hui et demain ».
Et demain. Évidemment.
Donc, il se penche sur le passé, sur l'actualité et puis sur ce que ça pourrait être à l'avenir.
À l'avenir, oui. Parce qu'on est dans un moment qui semble charnière. On se dit que ça ne fonctionne pas tout à fait comme on aurait pu l'imaginer. Peut-être parce qu'on a imaginé une Europe sans frontières. Et là, il va y avoir une question qui va se poser. Est-ce que les communautés politiques ont besoin de frontières? Est-ce que la famille a besoin d'un toit et d'une maison avec les limites de la maison?
C'est la notion de limite qui revient.
C'est la notion de limite. Est-ce que ces limites enferment ou est-ce qu'elles ouvrent et permettent la confrontation à l'autre? Donc ça, c'est des thèmes qui vont revenir. Le sujet est particulièrement intéressant aussi parce que nous serons le 19 mars, fête de la Saint-Joseph, mais c'est le moment où va sortir la traduction française d'un livre de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, qui est un recueil de textes que Joseph Ratzinger, Benoît XVI, a prononcé au cours ou écrit au cours de sa vie. Il a été publié en italien en 2021. Le pape Benoît avait alors écrit l'introduction et il va sortir en langue française ce jour-là. Ce livre s'appelle « La vraie Europe, identité et mission ». Et dans cet ouvrage, le pape Benoît XVI, en l'introduisant, pointe le problème de séparer aux racines de l'Europe la sexualité de la fécondité intrinsèque du don d'amour des époux. Ça peut surprendre pour introduire un ouvrage politique. Mais justement, ce sera quelque chose à évoquer durant cette journée. Et le pape François, qui introduisait alors l'ouvrage de son prédécesseur, nous parle de l'humanisme de l'incarnation qui est aux racines de l'Europe.
Sujet vertigineux. Alors à 17h40, il y aura un dernier temps d'échange. Est-ce qu'il y aura une espèce de résumé des échanges de la journée, une sorte de bilan?
Je ne sais pas si je serai en mesure de faire un bilan de tout ce qu'il sera dit. Donc le bilan n'est pas prévu, on verra si l'un ou l'autre s'y jette. Mais parce que parfois, il faut, pour faire un vrai bilan, il faut un peu plus de temps.
Et oui, ça pourrait faire l'objet d'un livre blanc, une journée comme ça. Hein. Je pense qu'il y a
oui,
beaucoup
bon,
de choses très intéressantes qui vont être dites.
Des publications dans le bulletin de littérature ecclésiastique de l'Institut catholique de Toulouse.
Une chose que nous n'avons pas dit, c'est que la veille, le mercredi 18 mars, au même endroit, il y a un séminaire de 9h à 17h, également placé sous votre direction, qui s'adresse, je crois, plutôt aux étudiants et qui a pour thème « Rencontres anthropologiques et politiques ». Quels sujets vont y être abordés et avec quels intervenants? Il y en a certains qu'on retrouve le lendemain.
Oui, c'est le professeur Philippe Soal et le professeur Mazurkiewicz qui interviendront lors de cette journée. Donc il y a trois interventions, deux interventions du professeur Soal et une du professeur Mazurkiewicz. Ce sera plutôt sous forme de cours, ça ressemblera un petit peu plus à des cours, en fait,
des
cours magistraux, avec des temps d'échange et de dialogue à chaque fois. Et cela visera à comprendre le lien entre anthropologie, métaphysique et politique dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, chez Augustin, et aujourd'hui, l'après-midi, le professeur Mazurkiewicz donnera une intervention intitulée
« Conflit anthropologique dans la politique occidentale ».
Oui.
Sujet impressionnant, je trouve.
Qui est très large et on voit bien qu'il y a différentes conceptions de la nature humaine qui s'affrontent aujourd'hui en politique. Notamment, on pourrait diviser l'Assemblée nationale en deux parties qui ne seraient pas forcément droite et gauche, mais qui seraient une partie qui reconnaît l'existence d'une loi naturelle qui serait normative et nous dirait comment agir, et l'autre partie qui dirait il n'y a pas de naturel, nous sommes absolument libres, nous faisons ce que nous voulons, c'est l'homme qui crée tout. Reconnaître une loi naturelle, c'est reconnaître quelque chose au-delà de soi-même, c'est anti-totalitaire.
Ça ressemble un peu à la ligne de partage entre ce qu'on pourrait appeler des conservateurs, et il existe des conservateurs de gauche aussi, et des progressistes.
Oui et non.
Pour lesquels ce qu'ils appellent le progrès n'aurait aucune limite.
Progressiste transhumaniste, oui.
Ouais. Alors, peut-être aussi des détails pratiques. Bon, on a dit que c'était à l'amphithéâtre René de Noroy, l'Institut catholique de Toulouse, aussi bien le séminaire du 18 mars que la journée d'études du 19. Mais pour assister, il faut vraiment s'inscrire au préalable. Ça, c'est obligatoire.
Oui, tout à fait.
On ne peut pas arriver au dernier moment.
Vous avez des affiches avec ce qu'on appelle des QR codes. On devrait dire pictolien en bon français. Donc du coup, avec ces QR codes, on a le lien pour pouvoir s'inscrire. C'est gratuit, mais il faut véritablement passer par là pour s'inscrire. C'est pour des raisons de sécurité, plan Vigipirate, etc.
Et est-ce qu'on peut le faire aussi par mail? On peut s'inscrire par mail en envoyant un mail, par exemple, au secrétariat du CRS?
Non, vraiment. Alors on peut demander, si vous n'avez pas eu l'affiche, que peut-être on mettra sur le site de Radio Présence, j'imagine. On peut demander le lien. Le secrétariat, à ce moment-là, vous enverra
l'oriente.
Lien pour vous inscrire.
D'accord. Je ne sais pas si on a tout dit, hein, mais on a dit l'essentiel, je l'espère. Il est temps de conclure cette émission. Merci beaucoup, Aude Surami, d'y avoir participé et de nous avoir présenté le programme de ces deux journées. Je rappelle que vous dirigez le séminaire Rencontres anthropologiques et politiques le mercredi 18 mars et la journée d'études transdisciplinaires La finalité politique de la personne humaine le vendredi 19. Les deux ont lieu à l'amphithéâtre René de Noroy à l'Institut catholique de Toulouse. Tous les renseignements et le programme de ces journées sont disponibles sur le site web de l'ICT, www.ict-toulouse.fr. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Enzo Basile. Merci à tous de votre fidélité à Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.